le répéter, je vais répéter ce que je viens de dire un peu.
Exactement. Okay. On va faire comme si on ne se l'était pas dit. Puis... ben, je suis content qu'on fasse ça parce qu'on a eu de la misère à le céduler. Là, fait que là, finalement, on a réussi à trouver un moment pour le faire. Fait que c'est cool. Je suis bien heureux.
Ouais, moi aussi.
Ben oui, ben t'as bien fait de m'écrire, pour vrai. Tu m'as écrit, j'ai reçu ton message, puis je trouvais ça super cool comme proposition. Enfin, j'ai fait comme, ben oui, on fait ça, man, pour vrai. Ça
sera ben, je suis un fan de podcast, puis je suis ça beaucoup. Je fais partie d'un podcast d'échecs aussi. Ben, j'ai commencé dernièrement un podcast d'échecs, puis je suis beaucoup les podcasts d'humour québécois.
Très nice.
Comme ton podcast, puis sous-écoute. Puis quelques autres, là, que j'aime beaucoup ça. Ça fait quelques années que je suis ça intensément.
Donne des shout-outs aux autres podcasts que tu écoutes, puis plug le tien en même temps. On va commencer avec ça.
Ah, OK, ouais. Ben, c'est pas tout à fait stable encore. Je n'ai pas trop en parler, mais je peux parler des projets que j'ai. Ouais, je pourrais en parler, ouais.
Parfait. Ben, dans le fond, fait que Nicolas Soudre, tu m'as écrit suite à un épisode avec, je pense que c'est celui sur le e-sports, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais.
Puis tu m'as dit, moi je suis coach en échec, coach d'échec en fait, puis je suis maître national. Et j'ai fait, c'est fucking intéressant. Tu as aussi une formation en psychologie, tu es intervenant pour des jeunes dans une clinique. Ouais. Et là, tu m'as écrit, puis tu m'as dit, depuis que la COVID a commencé, les échecs ont vraiment comme monter en popularité, vraiment beaucoup. Puis j'ai fait quel sujet super intéressant que je connais pas en tout. Fait, je me suis dit, 11 ans, puis je trouvais que tu étais bien placé pour en parler, justement. Là. Fait que là, explique-moi pourquoi la popularité des échecs a remonté. Parce que, j'ai l'impression, moi, que c'est cyclique. Dis-toi que je connais rien aux échecs, à part j'ai écouté Bobby Fischer. Tu sais, c'est ça pour moi, les échecs. Je joue pas vraiment. Je connais les règlements, mais ça s'arrête là, là. Est-ce qu'il y a des cycles? On dirait que c'est comme des pauses. Des fois, c'est bien populaire. Après ça, on l'oublie. Après ça, ça revient. Puis,
Tout le monde connaît Bobby Fischer. Hein? C'est comme c'est comme aussi populaire que les Beatles dans les années 70. Bobby Fischer, l'Américain qui va jouer contre les Russes. Il y a plusieurs films sur sa vie. Bobby Fischer. Les échecs sont très, très populaires ces temps-ci. Surtout en ligne, en fait, parce qu'on ne peut pas jouer en salle. Hein? Mm-hmm. Il y a quelques tournois en Europe avec des plexiglas et tout, mais les grands tournois open là, en ce moment, il n'y en a pas au Québec en tout cas.
Tout est arrêté, évidemment.
Ouais, tout est arrêté, fait que ça joue juste en ligne. Mais c'est quand même un jeu qui est bien pour jouer en ligne. T'sais, il y a des plateformes, puis on peut jouer en ligne quand même. Pourquoi la popularité a augmenté? Comme il y a un joueur qui s'appelle Nakamura, c'est un grand maître, meilleur joueur au monde aussi en ligne, numéro un au monde. Puis son stream est extrêmement populaire sur Twitch, il y a des centaines de milliers de followers. Ça a popularisé les échecs à travers les autres jeux aussi, des joueurs qui jouent à d'autres jeux sont intéressés aux échecs.
Okay.
Donc il y a ça.
Avec la communauté du gaming, que ce soit...
La communauté du gaming a commencé à jouer. Il y a des tournois entre gamers d'échecs, mais sont assez mauvais, les joueurs, là, parce que c'est des joueurs, ils sont bons dans leur domaine, là, tu sais, à League of Legends, mettons, sont super forts, mais aux échecs, c'est drôle, là, mais c'est... En tout cas, mais c'est Nakamura qui commente. Des fois, c'est Nakamura qui commente, qui est le meilleur au monde. Mais c'est. Tu sais, ils savent presque pas jouer, là, tu sais.
OK.
Mais il y a des bourses, là, tu sais. Il y a des dizaines de milliers de dollars en bourse parce que c'est des gens suivent, aiment ça, tu sais. Fait que c'est ça. Il y a quelques streamers comme ça qui sont vraiment populaires. Ça a augmenté la popularité en ligne. Puis sinon, il y a juste le fait que les gens, ils ont rien à faire. Fait qu'ils ont commencé à s'intéresser à un jeu qu'ils pouvaient jouer chez eux.
Ouais.
Les échecs. Ça a comblé ce besoin-là, j'imagine.
Est-ce que la courbe d'apprentissage est longue aux échecs ou c'est vraiment une question de talent et de tempérament qui fait que une fois que tu as les règles basses, si tu comprends bien, ça peut aller super vite. Comme si tu n'as pas ce talent-là, c'est juste ça va être long et tu vas topper rapidement.
Oui, ça prend quand même du talent, c'est chèque. Mais oui, ça s'apprend quand même assez vite, les règles. Là. Tu peux quand même te débrouiller assez rapidement. Ensuite, ça dépend. Moi, je suis coach d'échecs, donc j'ai des élèves qui s'améliorent très vite, puis d'autres que ça prend plus de temps.
T'es coach à partir de quel niveau? Dans le sens où c'est-tu
des âges? Je prends tous les niveaux. Tous les niveaux, okay. Tous les âges. J'ai des ma plus jeune, elle a 5 ans.
Wow.
Puis elle est très forte, elle est championne nationale aux États-Unis, à Washington. Puis mon plus vieux, il a 77. Okay. J'ai des élèves. En fait, il y a un système de cotes là, aux échecs. Fait que j'ai des élèves qui ont carrément zéro. Là. Ils commencent la base de la base. Puis j'ai d'autres élèves qui sont des experts, là, qui sont des joueurs expérimentés qui jouent depuis 10 ans, qui font des tournois. J'ai des jeunes aussi très talentueux qui sont en pleine progression, qui font des tournois. J'ai toutes sortes de demandes. Ça peut être des amateurs d'échecs qui veulent juste en apprendre un peu plus, qui veulent juste entendre quelqu'un qui connaît vraiment ça, parler des échecs, puis ça les passionne, de parler de leur partie. J'ai toutes sortes de besoins. T'sais, j'évalue les besoins des gens, là, selon...
Tu t'ajustes en fonction.
Ouais, je m'adapte beaucoup à chacun des élèves que j'ai, là.
Très cool. Comment on classifie ça? C'est quoi, justement, tu le disais, zéro, là, un élève qui ne connaît rien du tout. C'est quoi les classes, mettons qu'on pour les niveaux aux échecs? Comment ça fonctionne?
C'est un système de cotes. Okay. Donc, au début, tu commences à zéro, dans le fond. La moyenne de cotes sur chess.com, il y a 45 millions de joueurs.
OK.
Puis la moyenne, c'est 900, ce qui est quand même assez faible. T'sais, c'est quand même amateur, là, très amateur. Tu commences, là, tu joues un coup, mais tu réfléchis pas trop à ce que l'autre va faire. Là. Tu joues un coup, puis tu vois ce qui se passe.
Puis la cote maximale, c'est quoi?
Nakamura, le joueur qui est le populaire joueur, il a 3000 de cote environ. Mais la vraie cote, c'est le champion du monde, c'est Magnus Carlsen. Ça, c'est la cote FIDE internationale qui joue over the board là, sur l'échiquier. C'est 2800, il y a 2880. Ça, c'est la plus haute cote que Bobby Fischer, il y avait 2800 environ. Moi, je suis à 2300. Je suis un maître, je suis quand même fort, mais je suis loin des meilleurs au monde. Là.
OK, mais toi, quand tu dis que t'es maître, là, ça veut dire que là, il y a d'autres titres. T'as maître, t'as grand maître, ça me semble.
C'est un grand maître, oui. Il y a grand maître. Il y a, en fait, les deux titres, rappelle-moi, c'est maître international. Qui ferait que je fasse des normes dans les tournois internationaux en allant dans d'autres pays. Okay. Puis, grand maître international ensuite. Qui est, il n'y en a pas beaucoup, ça, des grands maîtres. Il y en a peut-être 1000 dans le monde, des grands maîtres.
Quand même. OK. Ouais, ça, pour avoir ça, il faut que tu fasses des compétitions qui sont...
avec des normes, que tu peux gagner des normes. Donc, il doit avoir d'autres grands maîtres dans le tournoi. Tu dois battre des grands maîtres, des maîtres internationaux. Puis là, il y a un... Mettons, si tu dis, il faut que tu fasses 6,5 en 9. Pour avoir ta norme, selon
six,
les...
6,5 en 9, ça veut dire quoi, ça? Comment ça...
6 victoires. C'est vrai, 6 victoires, une nulle, parce qu'il y a des nulles aux échecs. Tu peux faire des demi-points. Par exemple, si on se ramasse roi contre roi à la fin, c'est nul, ou si on se propose une nulle. On pense que la position est égale, puis je te propose la nulle, l'autre accepte. Puis c'est ça. Les victoires, c'est un point, les nulles, c'est une demi-point, puis les défaites, c'est zéro point.
Okay. Puis l'avantage de proposer une nulle, c'est juste parce qu'on veut sauver du temps, parce qu'on est tous les deux d'accord que ça s'en va nulle part, ou...
Ouais, ben parce que des fois, tu veux faire une nulle stratégique, parce que tu penses que la position, il n'y aura pas d'évolution dans la position. Des fois, il y a des positions qui sont juste nulles, il n'y a rien à faire. Il y a plusieurs façons de faire nulle. Tu peux répéter aussi la position 3 fois. Tu répètes la même position exactement, les mêmes coups 3 fois. Si la position se répète 3 fois, c'est parti nul aussi.
OK, c'est comme parti nul comme automatiquement ou...
C'est nul automatiquement, ouais.
OK, parce que tu as des arbitres qui surveillent.
Ouais, tu as les arbitres ou sur Internet, il y a le programme est automatique. Là, quand la position se répète 3 fois, la partie arrête.
OK. Ouais. Et parlons de ton parcours à toi. Les échecs, c'est arrivé où dans ta vie, là? Tu as commencé ça quand?
À 10 ans. J'ai joué de 10 à 25 ans aux échecs. J'ai arrêté pendant 12 ans jusqu'à 37, puis j'ai recommencé. Là, j'ai 43.
OK. Ouais. Puis quand tu jouais de 10 à 25, est-ce que tu faisais des compétitions? C'était-tu juste jouer pour... OK. Fait que tout de suite, à 10 ans, toi, genre les gens autour de toi ou toi-même, tu as vu que tu avais du talent, puis tu as fait « OK, ben j'aimerais ça me comparer à d'autres. »
Ouais, il y avait un professeur à l'école dans les activités parascolaires qui a remarqué que j'avais du talent.
Okay.
Puis il a suggéré à mes parents de faire un tournoi. Puis là, j'ai fait des tournois. J'ai gagné mes 3 premiers tournois, je pense. Puis après ça, je suis devenu champion québécois de mon âge 2-3 mois plus tard.
OK. Y a-t-il une ligue au Québec de ça?
Ouais, c'est la Fédération québécoise des échecs, ouais.
OK. Fait que ça, il y a des tournois qui sont organisés un peu partout au Québec. C'est-tu des tournois genre régionaux, locaux, après ça, c'est provincial?
Ouais. Ben, il y a des tournois scolaires, tu sais, qui sont cégep 1 et moins, que tu peux jouer dans les tournois scolaires avec des championnats canadiens, des championnats québécois, championnats nord-américains. Okay. Puis, tu as les tournois pour adultes. Mais là, les enfants peuvent aussi jouer dans les tournois pour adultes. Que ça, c'est... Il y a toutes sortes de tournois. Il y a des tournois, le championnat canadien fermé avec les meilleurs joueurs. Tu as des open où est-ce qu'il y a 300 joueurs. Puis, il y a plusieurs classes. Donc, il y a la classe ouverte qui est la classe la plus forte, mais tu as aussi d'autres classes. Okay. Où est-ce que il y a des... Il y en a pour tout le monde. Là, il y a des joueurs moins forts que d'autres. Puis,
C'est qui la personne, la première victoire que tu as eue quand tu étais le plus jeune, en fait, là, je me demande juste, quand tu étais jeune, la première personne que tu as battue qui était vraiment plus vieille que toi dans une compétition, puis que tu as fait « Oh, OK », que tout le monde était surpris un peu ou...
Ben, j'ai battu mon prof de parascolaire assez rapidement.
OK.
Je jouais avec mon père, il jouait dans les tournois, j'avais battu mon père.
OK, ton père jouait aussi dans les tournois d'échecs?
Ouais, il jouait dans des tournois, ouais.
C'est
Joueur amateur. Puis, je me souviens plus trop.
Contre ton père, c'était comment ce game-là de jouer contre ton père dans un tournoi?
Oh, je m'en souviens plus beaucoup. Là. J'avais peut-être 11 ans, 12 ans. Je sais pas. Je pense que je voulais gagner. Là. J'étais quand même compétitif quand j'étais jeune.
Ouais.
Mais on était. C'était... Au début, mon père me battait. Là, puis à un moment donné, j'ai commencé à le battre. On était à peu près le même niveau au début.
OK. Puis, est-ce que de jouer contre un joueur souvent, comme là, dans ce cas-ci, c'est ton père, tu gagnes un avantage parce que tu vois comment le genre de move qu'il fait? Est-ce que c'est comme ça que la game se joue un peu?
Quand tu joues contre quelqu'un souvent, est-ce que tu vas voir des patterns qu'il y a? Ouais, quand même. On peut voir certains patterns dans les joueurs, ouais. On peut voir des faiblesses dans leur jeu, un peu comme au poker, là, tu vas voir des faiblesses, comment si le joueur joue trop agressif ou... quand même, mais c'est plus tu vas réagir au coup qu'il joue, tu vas regarder sur l'échiquier, puis tu vas essayer de trouver le meilleur coup par rapport à ce qu'il vient de jouer. Mais c'est vrai qu'il y a des ouvertures que certains joueurs vont jouer, tu vas savoir un peu, tu peux te préparer, par exemple, dans un tournoi contre un joueur... parce que tu connais ses parties, fait que tu regardes ses parties puis tu te prépares contre lui parce que tu sais qu'il joue telle ouverture et tout ça.
Okay.
Fait que oui, il y a quand même tu peux quand même voir des patterns dans certains joueurs.
Mais sinon, t'es pas mal sur le board en réaction à ce qui se passe concrètement, puis essayer de calculer les moves à l'avance. Puis,
Ouais, c'est ça. C'est en réaction à ce que l'autre joue pas mal, ouais.
Est-ce que, parce que de ce que je sais, les échecs, c'est un jeu d'anticipation un peu de tous les scénarios potentiels par rapport à ce qui se passe en ce moment, là, d'évaluer toutes les possibilités puis de prendre la meilleure décision. Combien de coups à l'avance, genre les meilleurs au monde, sont capables d'essayer de prédire?
Ben ça, c'est surestimé par les gens. Là. Les gens, ils pensent que les grands maîtres, ils vont calculer 25 coups à l'avance. Ça peut arriver si... Il y a des séries de coups forcés, des fois, qui peuvent aller très loin. Ça s'appelle le calcul, de calculer très loin dans ta tête. Ça va être plus dans les parties lentes, parce qu'on a du temps pour calculer, tu sais. Sur Internet, c'est plus des parties rapides qu'on joue, tu sais. Moi, je joue des parties 3 minutes chaque. Fait que, avec 3 minutes chaque, t'as pas trop de temps de calculer, tu sais. Tu peux calculer un peu, mais c'est plus de la reconnaissance de patterns, tu sais. C'est des tactiques qu'on appelle. Fait qu'on voit des patterns, puis on les reconnaît dans des positions. Fait que c'est des séquence de tes 3 coups, 2 coups, 3 coups, 4 coups des fois. Mais oui, il y a des longs calculs. Il y a des joueurs qui sont très, très forts en calcul. Mais ce n'est pas juste le calcul des échecs. Il y a beaucoup d'aspects. Mais il y a des joueurs qui sont reconnus mondialement pour être les meilleurs calculateurs. Là. Ils vont calculer des très longues séquences de coups.
Mais les coups forcés, comme tu dis, c'est quoi c'est un coup forcé? C'est que tu mets l'autre dans une position où il n'y a pas le choix de faire un seul move?
Ouais, ça, c'est pas mal ça. C'est une bonne définition. C'est que, mettons, tu vas mettre l'échec au roi. Tu sais, tu vas mettre le roi est obligé de bouger parce qu'il est en échec. Fait que là, tu vas savoir qu'il va faire ce coup-là, puis là, tu vas pouvoir prévoir l'autre coup. Mais si le joueur a 4-5 possibilités, mais là, l'arbre, il devient immense parce que là, il peut faire ça, ça ou ça. Fait que là, sur le premier coup, je peux faire ça, ça. Tu sais, tu comprends? L'arbre, il devient... Ouais. Fait que c'est impossible de calculer 12 coups dans ces arbres-là. Mais si c'est une longue séquence forcée, là, ça se calcule très loin. Mais des fois, c'est plus dur de calculer 4 coups que de calculer 14 coups dans une position parce que il y a tellement de possibilités. Okay. Ça devient plus des aspects positionnels du jeu, de savoir comment bien placer ses pièces dans la position. Donc, il y a des aspects plus tactiques où est-ce que là, on reconnaît des patterns, puis il y a des aspects plus positionnels que c'est savoir où bien placer ses pièces dans le jeu. C'est complexe d'expliquer ça.
J'essaie d'expliquer
le plus simple possible. Mais...
Oui, on y va tranquillement. C'est pour ça que je suis là. C'est moi, je suis le tata. Là. C'est un...
je trouve que tu comprends bien. Là. Je trouve que ça...
tranquillement, je t'écoute. Je vais t'absorber.
C'est pas évident là, quand tu n'as jamais joué. Là. Est-ce que tu sais jouer un peu? Ou...
Un peu, mais tu sais, je sais quel mouvement chaque pièce a le droit de faire, mettons. Mais il y a des affaires que je ne sais pas tout le temps. Là, de... À un moment donné, je voyais un move qui était... mais ça, on y reviendra parce que c'est une question avant. Tu sais que genre quelqu'un switchait, je pense, sa dame.
Le roi. Le rock.
Ouais, le rock.
Le roi avec la tour, ouais, c'est le petit rock. C'est un mouvement bizarre quand tu ne le connais pas au début. Hein.
Ouais, je suis sûr. Ça s'arrête là, ce que je sais. Mais tu sais, je n'ai jamais vraiment exploré ça. Fait que je connais la base, mais c'est tout. Là. Mais quand tu dis les parties, parce que tu as dit quelque chose, les parties de 3 minutes, c'est parce qu'on voit souvent le temps. Tu sais, ils vont faire un coup, puis ils vont arrêter le temps. C'est-tu ça qu'ils font? C'est-tu ce timer-là qui est 3 minutes?
Oui, c'est une pendule. Ouais. À chaque fois que tu joues ton coup, tu pèses sur le temps de l'autre, puis l'autre, c'est à son tour à jouer, puis le temps s'écoule pendant qu'il pense. Puis il repèse, puis le temps part. Ouais. C'est ce qu'on appelle un timer aux échecs. Ouais.
OK. Fait que le 3 minutes, c'est le temps total que chaque joueur a pour réfléchir. Fait que c'est pour ça que... C'est-tu ça?
Ouais, ben dans les parties, moi je joue des parties, j'ai des parties de 3 minutes, mais il y a des parties tu peux jouer des parties de 1 heure chacun, tu peux jouer des parties, il y a toutes les temps peuvent exister, là. Donc des parties les plus rapides, c'est 1 minute chacun, ça c'est ce qu'on appelle des bullets, c'est extrêmement rapide, t'as pas du tout le temps de réfléchir.
Okay.
Puis les parties les plus lentes, c'est 2 heures chacun environ. Plus, il y a d'autres temps qui se rajoutent après, mais ça, c'est des parties qui peuvent durer 6 heures environ.
OK.
Ça, c'est des parties d'échecs classiques. Évidemment, la qualité des parties est mieux là, que si on joue des 1 minute.
Parce que tout le monde a le temps de réfléchir, c'est ça. Fait que dans les grands tournois internationaux et tout ça, là, est-ce qu'il y a un standard de game de ces temps-là que c'est?
Ouais. Sur l'échiquier, c'est plus des parties classiques, quoi, qu'il y a des parties de blitz aussi puis des rapides. Ça s'en vient de plus en plus vers ça, blitz rapide. Les gens aiment mieux regarder ça. Mais il y a plus d'action, là, ça va vite. Mais en classique, il va toujours avoir des tournois classiques, je pense, là. C'est ça. Mais sur Internet, c'est vraiment plus la tendance vers le rapide blitz, là. Parce que je suis pas sûr que c'est quand même dur de rester concentré 6 heures de temps devant ton écran. C'est pas pareil. Quand tu joues dans un tournoi, il y a d'autres personnes, tu te promènes, tu vas te prendre un café, il y a l'atmosphère des échecs. Fait qu'une partie classique de 4 heures, 5 heures, c'est le fun, hein, mais sur Internet, c'est plus le fun de jouer des parties rapides.
Non, c'est normal. Mais quand tu entraînes des gens, là, quand tu coaches, là, c'est quoi comment tu déclinerais j'allais dire les facteurs, mais c'est pas le bon terme, les aspects des échecs. Est-ce que il y en a un, comme tu disais tantôt, il y a un côté tactique? Comment ça se décline ta formation? C'est-tu OK, là on va pratiquer les coups défensifs, là on va pratiquer.
C'est exactement ça. Ben, je fais des thèmes. Par exemple, aujourd'hui, on va voir les principes d'ouverture. Fait que il faut bien développer ses pièces. Il faut sortir ses pièces au début. Puis là, je vais montrer, il faut prendre le centre. Donc, je vais expliquer les concepts. J'ai une plateforme de jeu en même temps. Donc, je bouge les pièces en même temps, j'explique le thème, on regarde des exercices, on fait des exercices. J'explique, j'analyse des parties qui ont joué aussi. Je vais prendre des parties qui ont joué sur, en ligne, puis je vais les analyser avec eux, voir quelle erreur ils ont faite ou quel bon coup ils ont fait.
Le positionnement. Est-ce qu'il y a des règles de base comme de positionnement? De genre.
Oui, il y a des concepts à respecter quand même, ouais. Mais il faut savoir placer le bon concept au bon moment. C'est ça qui est difficile.
OK. Pour les départs, mettons, pour l'ouverture, là, c'est pas toujours, t'es mieux de prendre le centre.
Ah ouais, ça c'est un concept. Le prendre le centre, c'est quand même important comme concept. Il faut le respecter. Okay. Mais ouais, il faut comprendre, il faut bien intégrer la base pour aller plus loin après. Fait que je vais répéter avec les joueurs débutants, je vais répéter beaucoup la même chose jusqu'à temps que ça soit intégré. Puis je vais l'expliquer théoriquement, mais après ça, on va le pratiquer aussi, on va le mettre en pratique, puis essayer d'intégrer dans sa pratique ce qu'on a appris ensemble.
OK. Puis cette base-là, les grandes lignes de la base, c'est quoi? Toi, tu dois être habitué de les répéter, là. Mais...
Je montre toutes les tactiques de base. Là. Il y a des thèmes tactiques comme par exemple le fork, là, c'est la fourchette, c'est d'attaquer avec un cavalier, une dame puis un roi en même temps ou attaquer deux pièces en même temps. Il y a des tactiques comme ça que j'apprends. Okay. Bien développer ses pièces, ses échecs, c'est vraiment important. Des principes.
Bien développer ses pièces, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien...
Bien tout sortir ses pièces avant d'attaquer, tu sais, comme tu as tes fous, tes cavaliers, de roquer, justement, comme on disait tantôt, de mettre son roi en sécurité. Puis là, une fois que toutes tes pièces sont bien placées, là, tu peux commencer à essayer d'attaquer ton adversaire. Okay. Mais des fois, les gens, ils essayent d'attaquer trop vite. T'sais. Ils vont prendre juste une pièce, puis là, ils vont attaquer avec leur pièce, mais ils peuvent pas attaquer une armée au complet avec juste une pièce. Okay. Donc, c'est des choses comme ça que j'explique. J'ai plein de métaphores pour essayer de... Prendre ça plus facile, ouais. C'est pour mais je m'adapte beaucoup aux gens, tu sais, je m'adapte beaucoup à celui qui est devant moi aussi. Fait que je vais essayer de voir ce qu'il comprend pas, puis là, je vais y expliquer de plein de façons différentes jusqu'à temps que ça rentre.
OK. Puis c'est quoi les erreurs les plus communes que tu vois chez les débutants? Quelque chose que les gens font tout le temps, là, ou la plupart du temps, des erreurs qu'ils font, comme là, tu m'as nommé, d'aller sortir juste une pièce. Quand tu dis sortir une pièce, j'imagine que c'est prendre les pièces qui sont en arrière des pions.
Les fous, les cavaliers, puis attaquer, mettons, avec juste un fou et un cavalier, l'armée au complet de ton adversaire. Ils donnent beaucoup de pièces, des pièces en un coup. C'est-à-dire qu'ils mettent leur pièce sur une case, puis ils ne voient pas qu'il est attaqué. Fait que là, la pièce, il perd sa pièce.
OK, fait qu'il ne voit pas qu'en se mettant là, automatiquement, il va la perdre parce qu'il est en
train. Il va se faire manger sa pièce, ouais. Ça arrive quand même souvent. Okay. Tant que ça, c'est pas réglé, on essaie de focaliser sur la. Il faut visualiser que sa pièce va aller là avant de la jouer, tu sais. Donc, il faut pas. Mm-hmm. Mais c'est ça. Ça, c'est le problème majeur, là, en premier à régler.
C'est de projeter dans l'avenir, dans quelle position ça va te mettre de placer ta pièce là.
Ouais. Puis essayer de penser à ce que l'autre va faire le coup d'après. Et j'essaie de montrer des combos, en fait. C'est comme un peu à Street Fighter, là. Il y a des combos, ou à Mortal Kombat, mais c'est ça, je montre les combos, là. T'sais. Il y a des combos intégrés dans ton jeu. T'sais. C'est pas juste un coup, les échecs. C'est un coup, le coup de ton adversaire, puis ton coup après. T'sais. Donc, j'essaie d'intégrer ça dans le jeu. C'est un processus de pensée à intégrer. Des fois, c'est difficile parce que le joueur, ça fait 5 ans qu'il joue de la même façon. Puis là, je veux changer sa pensée. Il est un peu résistant à ça, mais c'est ça, c'est la façon qu'on peut s'améliorer. Donc,
puis pour faire ça, est-ce que tu vas jouer contre lui, puis juste le mettre dans la position où il faudrait qu'il change son comportement, puis tu vas juste tout le temps le mettre dans un coin pour qu'il accepte?
Ouais, je vais faire des mises en situation. Des fois, je fais un peu de life coaching aussi, où est-ce qu'il peut jouer contre un joueur, je vais expliquer quoi faire. Je peux. Ouais, c'est ça, on va recréer les situations, où est-ce que... Puis là, après ça, on analyse les parties qu'il a jouées dans la semaine, fait que, j'en choisis une, là. On choisit une partie qu'on analyse, puis on voit s'il a fait des erreurs. Puis il y a aussi des entraînements là, que je donne, il y a des sites pour s'entraîner pendant la semaine. Ouais, parce qu'une heure, lui, il prend, mettons, 1 heure de coaching par semaine, mais en même temps, je veux qu'il s'entraîne un peu. C'est ça.
Pour, Très cool. Puis comment ça a commencé le coaching pour toi? C'est venu quand dans ta vie?
J'ai enseigné un peu quand j'avais 20 ans dans les écoles en parascolaire. J'enseignais des cours de groupe.
OK.
Puis j'ai arrêté. Puis là, ça doit faire environ... Je pense que ça fait 4 ans que j'ai recommencé vraiment sérieusement à enseigner. Puis là, ça fait à peu près un an et demi que j'enseigne vraiment intensément. Là.
C'est ça. Tu me disais que cette semaine, tu as fait 27 heures de cours.
27 heures de cours, ouais. C'est quand même quand pas même.
Mal. Ça t'a brûlé, psychologiquement.
Ouais, ouais, c'est quand même le fun. Mais oui, ça fait beaucoup d'ordinateurs. Ça, c'est le désavantage. L'avantage, c'est que je suis chez moi puis je peux construire mon horaire autour de ça.
Ouais.
Donc, je peux faire mes autres activités, puis je peux aller faire des tâches là, si j'ai une demi-heure entre deux cours. Mais oui, je suis quand même assez heureux de ce que je fais en ce moment.
Très cool. Puis, étant donné, j'imagine que là, que tu sois maître national, ça te donne une crédibilité qui...
Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, j'ai mon titre, j'ai mon profil, là, j'ai un angle psychologique aussi, donc je suis spécialisé avec les enfants. Je parle en français puis en anglais. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Parce qu'il y a des centaines d'autres coachs. Hein. Je suis pas le seul à coacher. Mais il y a des millions de joueurs aussi. Donc, les gens, ils magasinent, là, regardent le profil, puis là, ils m'envoient un message sur chess.com.
OK, puis, c'est sur chess.com que ça se fait.
C'est le plus gros site. C'est le plus gros site au monde. Là.
OK.
Puis, c'est ça, ils m'envoient un message. Puis là, je leur dis mon tarif et tout ça. Je leur dis... c'est quoi que je fais comme coaching. Si ça les intéresse, bien, ils essayent avec moi.
C'est cool. T'as-tu du monde de partout dans le monde?
Ouais. Ben, surtout États-Unis, Canada. Là. Mais j'en ai quelques-uns en Europe aussi, ouais, en Angleterre.
Ça t'es-tu déjà arrivé que t'as battu quelqu'un en ligne? Puis après ça, il t'a parlé pour faire « Man, veux-tu m'apprendre? »
Du monde qui m'insulte des fois, ouais, ça arrive, ouais.
Ah, il y a du monde qui t'insulte, ah ouais, OK.
Ouais, ouais, quand on joue, ouais, ça peut arriver, ouais. C'est des gens, j'en ai un hier qui m'a insulté, qui disait que je savais pas jouer. Puis... Ouais, ça arrive des fois, là.
Mais tu l'as-tu battu ou t'as perdu?
C'est pas ouais, ça. J'avais gagné, mais j'avais été un peu chanceux, mais...
OK.
J'ai gagné au temps, mais j'avais pas une bonne position. Mais là, ça arrive tout le temps, ça, quand tu joues des 3 minutes, il y a beaucoup le facteur temps et... Ben ouais, ça arrive, mais c'est quand même assez rare, quelqu'un.
Est-ce que ça arrive que tu joues contre quelqu'un puis que lui, il veut après ça, il aimerait ça que tu le coaches?
En écho? Que...
Ouais.
Ben, j'ai pas vraiment, mais parce que je joue avec des joueurs de ma cote, tu sais. Vu que j'ai comme en ligne, j'ai environ 2500 de cote, fait que je joue comme des 2400 à 2600 à peu près. C'est si je vais jouer contre le même range de cote que moi, il m'apparie avec des joueurs de ma force. Okay. Par contre, je fais des apparitions dans des tournois québécois en ligne.
Okay.
Puis là, j'ai eu quelques élèves comme ça parce que ils ont remarqué, puis ils ont entendu de bouche à oreille que je donnais des cours aussi. Fait que j'ai quand même une réputation au Québec aussi. Là. Je commence cette semaine, je vais donner 10 cours de groupe en groupe en ligne.
Okay, cool.
Sur les échecs ouais, des Québécois. Puis, c'est ça. Fait que j'ai quand même pas mal d'élèves du Québec aussi.
C'est très cool, ça. Est-ce que c'est la façon la plus commune de gagner sa vie avec les échecs? Mais premièrement, est-ce que tu gagnes ta vie avec ça?
Ouais. Okay. Je fais 45-50 $ de l'heure. Fait que je gagne pas pire ma vie, là. Ça prend quoi? 25 cours pour faire ton 1000 par semaine?
Ouais.
Puis, mais oui, parce que c'est difficile de gagner sa vie avec les échecs. C'est juste même dans le top 100 au monde, il y a des joueurs qui coachent comme moi. À part, tu sais, c'est sûr, là, les Magnus Carlsen, je sais pas si tu connais Magnus Carlsen.
Je pense que j'ai vu ce nom-là passer récemment, ouais.
Il est champion du monde, il y a Chess24, il y a Chessable, des sites de. D'échecs, là, c'est une marque en soi, là, tu sais, G-Star, puis tu sais, en plus, il est quand même beau, fait que tu sais, ça marche bien pour lui, tu sais, il gagne des millions avec les échecs, mais il n'y en a pas beaucoup là, qui gagnent des millions avec les échecs. Là. Il y a le Nakamura là, avec son stream, parce que Twitch, quand tu as 100 000 followers, t'es millionnaire. Là.
OK.
Ouais, c'est quand même payant, le Twitch, quand tu as beaucoup de followers. Puis, quelques-uns, mais sinon, ouais, c'est le coaching, c'est pas mal tout le monde, c'est la façon, là. C'est dur de gagner sa vie avec juste les tournois, mettons. Là.
C'est ça, parce que sinon, j'imagine que la façon de gagner de l'argent avec les échecs, c'est d'avoir un tournoi avec une bourse.
De faire des tournois, ouais. Mais tu sais, au Québec, les bourses sont vraiment... sont assez misérables. Et, ouais. Si tu gagnes un tournoi, toute une fin de semaine de travail, c'est comme 1000 ou 2000 de premier prix. Mais il faut que tu battes d'autres grands maîtres. C'est vraiment difficile. Là, c'est la vache maigre, les échecs au Québec. Fait que oui, le coaching, c'est carrément la façon de gagner sa vie avec les échecs. Là.
OK, très cool. Pour moi, au moins, ça existe. Là. Il y a toute cette structure-là qui existe que je ne savais pas. Pour ça, j'imagine, c'est comme n'importe quel athlète, là, finalement. Ça devient des commanditaires, ça devient... comme tu sais ce que tu me nommais là, sur Twitch. Ben, Twitch, c'est ça, son argent vient de la diffusion. Ce n'est pas le jeu en tant que tel qui fait gagner sa vie, c'est plus la structure.
Non, c'est le Twitch. Oui, c'est ça, c'est la structure, on est une belle communauté aux échecs, puis il y a des joueurs de tous les niveaux, fait qu'on peut toujours apprendre de quelqu'un de plus fort que nous. Je trouve ça vraiment bien.
Très nice. Puis toi, est-ce que t'as-tu fini d'apprendre dans ta tête, dans le sens où j'imagine que non, mais si tu me dis que t'es maître national, puis t'es pas genre, maître international, par exemple,
ouais,
est-ce que ça prendrait pour passer à cette
époque? Non, je travaille sur mon jeu. Okay. Premièrement, parce que je veux pas dire aux gens de travailler sur le jeu. Si moi, je travaille pas sur mon jeu, je trouve ça plus de... C'est comme en psychologie, tu sais, si tu prends soin de toi et tu travailles psychologiquement sur toi, c'est plus facile de dire aux autres après que...
Qu'ils devraient le faire.
Ouais, c'est ça que tu devrais le faire. Fait que oui, je travaille sur mon jeu. Par contre, c'est pas si facile de s'améliorer à mon niveau en ce moment parce que j'ai 43, Mais j'essaie, tu sais, j'ai moi-même un coach.
Okay.
Un cours par semaine avec un grand maître russe.
Okay.
Fait que je prends mon cours par semaine, je travaille sur mon jeu quand même, fait que je suis quand même dans une grande bulle d'échecs depuis le COVID, là. Je suis pas mal dans le monde des échecs.
Mais j'avoue que ça doit avoir, c'est ça, là, le COVID a dû booster ça, mais je trouve ça cool. Il y a quelque chose de beau là-dedans aussi que avec Internet et tout ça, maintenant ce soit possible de justement prendre un cours avec un Russe, dans le sens où avant, de ce que je connaissais des échecs, c'était la guerre entre les Russes.
La guerre froide entre les Russes. Puis les
ordis après ça.
Exact. Ben, c'est. Premièrement, moi, j'ai arrêté de jouer, tu sais, à 25, mais tout de 10 à 25, là, il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait pas Internet, ça, c'est immense. Il n'y avait pas d'ordinateur fort encore.
Okay.
Puis on n'avait pas accès. Il y avait juste des vieux livres, tu sais. Écrit avec des erreurs dedans, puis fait que tu sais, maintenant les joueurs sont 10 ans en avance sur les joueurs qu'il y avait là, 20 ans, mettons.
OK.
Parce qu'ils ont accès
à beaucoup plus d'informations.
Ils ont accès à des ressources, tu sais, ça va vraiment plus vite l'évolution, là, les grands maîtres, ils ont 14 ans, puis ça devient des grands maîtres, fait que ouais, c'est sûr, c'est beaucoup plus motivant étudier les échecs maintenant, puis tu sais, fait que oui, l'Internet, l'accès au coach en Russie, puis tout ça, ça a tout changé, là. Fait qu'avant, c'était très sélect. Il y avait, en Russie, c'est sûr, il y avait déjà ces écoles-là, là, tu sais, il y avait des jeunes commençaient à 3 ans à jouer, tu sais, il y avait moitié école, moitié échec, tu sais, fait que ça commençait très jeune. Mais on n'avait pas cette culture-là avant, mettons. Mais là, maintenant, c'est ça, il y a plus d'accès aux ressources. Là.
OK. Est-ce qu'il y a une nation, justement, qui est... considérés comme étant les meilleurs. Tu sais, c'est eux autres qui produisent pas mal les meilleurs joueurs d'échecs.
Ça a été longtemps considéré comme par les Russes.
Ouais.
Mais là, maintenant, c'est plus vraiment les Russes nécessairement. En Inde, il y a vraiment un programme d'échecs incroyable.
Okay.
Il y a plusieurs Indiens qui sont très forts. Aux États-Unis, c'est fort aussi. Bon, au Canada, on a quand même des très bons joueurs aussi. Au Québec, on n'a pas une très bonne fédération, mais dans le sens qu'on n'organise pas assez de tournois, puis il n'y a pas assez de bourses pour les jeunes prodiges au Québec. Là.
Ouais, tu sais, les soutenir puis les encourager à continuer, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Tu sais, aux États-Unis, mettons à Saint-Louis, ils ont un mécène qui est un milliardaire, puis il investit dans les échecs, puis là, il y a beaucoup de ressources pour les jeunes espoirs, mais ici, on en a moins.
Okay.
Mais on a beaucoup de talent quand même. Il y a vraiment des très bons joueurs.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui t'a vraiment impressionné? Là? C'est qui la dernière personne que t'as vraiment fait « Wow, OK, tu sors de où? » Ne serait-ce que parce que ça faisait pas longtemps qu'il jouait puis il était déjà super avancé ou parce que t'étais comme « Je t'ai jamais vu. » Puis tu sors de où? T'as-tu des...
Il y a plusieurs jeunes qui m'impressionnent vraiment au Québec. Là. Ouais. Il y a Maëlie et Jade Ouellet, c'est championne et grand maître féminine. Championne canadienne, toute catégorie. Puis elle avait, quand elle a gagné le championnat canadien, elle avait 15 ans, je pense.
OK.
Vraiment impressionnante comme petite fille. Un autre jeune qui s'appelle Sean, lui, est rendu à 17 ans, je crois. Sean Rodrigue Lemieux. Puis, dans les meilleurs joueurs au monde en ligne, en blitz, c'est vraiment un talent incroyable. Fait que oui, j'apprends beaucoup des jeunes. Je trouve ça fascinant comment les jeunes sont forts. Puis,
Ils partent avec l'apprentissage qui a été fait avant eux. Il y a quelque chose de le fun là-dedans, de l'évolution du... Enfin,
ouais, du jeu.
Une nouvelle génération, tu as accès à tout ce qui s'est fait avant. Fait que tu peux arriver dans le game puis avoir comme gobé ça pendant... T'sais.
Exact, ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même arrêté pendant 12 ans. Puis, je suis quand même à mon maximum que j'ai été là. Fait que je suis quand même fier de moi de... là à prendre la coche pour être, mettons, maître international puis tout ça, c'est possible. Là. De grand maître, c'est ça, ce serait vraiment difficile. Il n'y a rien d'impossible. Mais, il faudrait que je me mette, pour être grand maître, il faudrait que je me mette à temps plein sur mon jeu à moi, tu sais.
Okay.
Donc, que je ne fasse pas de coaching, que je ne m'occupe pas de ma maison, que je ne m'occupe plus de rien, que je ne m'occupe pas de mon couple. Fait que, tu sais, je ne peux pas faire ça.
C'est normal.
Ouais, d'adulte avec des responsabilités, là.
C'est clair. Le plus jeune grand maître que tu as rencontré, toi, ou que tu as joué contre, est-ce que tu...
J'ai joué contre un jeune, il est plus jeune, mais Thomas Roussel-Rosemont, j'ai joué avec lui quand il avait 12 ans. Puis, je l'avais battu deux fois, mais là, il est rendu grand maître. Puis là, il y a quoi? Il doit avoir 30 quelques. J'ai déjà joué contre un joueur qui allait devenir grand maître. J'ai battu deux joueurs qui allaient devenir grand maître. Un qui était maître international, j'avais battu. Sinon, j'ai mon ami Alexandre Lesiège qui est mon âge, puis c'est un grand maître aussi.
Lui, c'est un grand maître, OK.
Ouais.
Il y a une limite d'âge à laquelle tu peux, dans le sens où ça arrive-tu des enfants de 12 ans qui sont grand maître parce que ils sont déjà rendus là? Ça existe-tu?
Je pense, si je me trompe pas, le plus jeune, il y a 13 ans en ce moment.
Okay. Quand même.
C'est incroyable. Ouais, c'est
fascinant.
Vas-y.
Quand tu enseignes, là, parce qu'on parlait de psychologie tantôt, étant donné que toi, tu baignes dans les deux mondes, je trouve ça intéressant d'avoir ton analyse par rapport à qu'est-ce que les échecs peuvent avoir comme impact positif dans le développement d'un jeune, justement, point de vue psychologique.
Ouais, c'est sûr. Ça aide beaucoup les jeunes sur plusieurs points de vue. Par exemple, les enfants qui ont un TDAH, ça peut les aider à se concentrer, à prendre des décisions. Tu sais, faut qu'ils fassent des choix. Il faut qu'ils soient patients. Tu sais, il faut qu'ils attendent que l'autre joue.
Ouais.
Ça prend de la patience. Moi selon
une amélioration avec ça?
D'être dans la conscience, d'être en pleine conscience pendant qu'on joue. Puis je travaille l'anxiété et performance, entre autres, de certains enfants pour les tournois. Là, tu sais, je vais travailler sur la peur de faire des erreurs qu'ils ont, de respirer avant de prendre les grandes respirations, avant de jouer. Les pensées qui peuvent les envahir pendant qu'ils sont en train de jouer. C'est un jeu aussi, tu sais. Fait que tu apprends la logique aussi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects à la mémoire. Tu sais, il faut mémoriser certaines choses. Moi, je trouve que les échecs devraient être intégrés dans le programme des mathématiques à l'école. Je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre la logique. Peut-être plus fun qu'apprendre des formules d'algèbre.
Ouais.
Si les jeunes aiment ça en général, les échecs, c'est quand même
Puis psychologiquement parlant, c'est ça, là tu l'abordes un petit peu, je trouve ça intéressant. Tu dis l'anxiété de performance, les idées qui peuvent venir les parasiter. C'est tout des trucs que tu travailles avec eux autres, de se calmer avant de faire un jeu, justement respirer ouais. pour te calmer, te grounder dans le moment, puis avoir les ouais. idées plus claires.
Ouais. J'essaie d'évaluer aussi si c'est vraiment une passion pour eux, si c'est vraiment important pour eux jouer aux échecs. Parce que des fois, c'est plus les parents qui vont pousser l'enfant.
OK.
Fait que l'enfant il est plus ou moins motivé, tu sais. Ça, je peux l'adresser aussi que c'est. Ça m'est déjà arrivé là, que je vais dire aux parents je suis pas sûr que votre enfant aime les échecs. Là.
Tant que ça, ouais.
Ouais, je suis authentique. Là. Je veux dire les. T'sais, j'aime pas ça enseigner à un enfant. C'est déjà arrivé. Là. Le parent il veut absolument que l'enfant, mais ça marche pas. Là. Il faut que tu sois. Pour réussir dans quelque chose dans la vie, il faut être passionné. Il faut que ça soit vraiment important, il faut que ça soit dans tes valeurs. J'évalue ça, là, si c'est vraiment dans ses valeurs. C'est quoi qui aime des échecs?
C'est le même un peu, la même façon que les coachs de sport, là, finalement. Là.
Oui, exactement. Ouais.
Juste que c'est appliqué aux échecs ouais. ou c'est appliqué à...
Ouais. C'est intéressant. Moi, en psychologie, j'utilise l'approche ACT, qui s'appelle, c'est l'approche d'acceptation et d'engagement, qui est une matrice qui s'en va... vers justement ce qui est important pour toi, tes valeurs. Tu vas avoir des obstacles intérieurs qui vont des fois t'empêcher d'aller vers ce qui est important, tu sais, de l'anxiété par exemple, de peur de quelque chose, mais si tu t'engages, tu vas faire des actions, tu vas t'exposer vers quelque chose qui est vraiment important pour toi, ou des fois tu vas faire des actions qui vont t'éloigner de ça. Uh-huh. C'est d'être conscient, d'être au milieu de ça, d'observer ce qui se passe, puis d'être conscient de tout ce qui se passe. Je considère que c'est quand même important d'aller voir ses valeurs dans la vie. Là.
Absolument. Puis avec les échecs, tu es en mesure d'aller pousser ça. Puis c'est un bel outil pour réussir justement à intégrer ces notions-là chez les jeunes.
Quand je fais de l'intervention à la clinique, j'utilise pas nécessairement les échecs, mais j'utilise beaucoup les jeux. Parce que je trouve que les jeux, c'est vraiment je sais pas comment dire, là, mais c'est vraiment on peut vraiment parler avec l'enfant à travers le jeu, tu sais, à travers la symbolique des jeux. Fait que j'ai plusieurs jeux. Mais il y a un jeu d'échecs aussi au cas que l'enfant s'intéresserait. Fait que c'est lui qui choisit le jeu qu'il veut jouer, tu sais. Puis moi, à travers le jeu, je vais parler des émotions, de l'anxiété, de la pleine conscience, puis tout ça. Puis, mais les échecs, c'est vraiment parce qu'ils prennent des cours d'échecs, tu sais. Je veux dire, ils mentent pour des cours d'échecs. Mais des fois, je remarque que l'enfant, il a de l'anxiété de performance pour les tournois. Fait que là, je vais travailler l'anxiété de performance avec lui. Mais c'est à la base, c'est des cours d'échecs, tu sais. Mais j'intègre la psychologie quand même dans les échecs.
La psychologie va être présente qu'on le veuille ou pas, là. T'sais. Fait que tant mieux si tu as ces outils-là pour en plus être en mesure de mieux répondre à leurs besoins, là.
Je pense que la psychologie est dans tout, là, dans le sport, entre autres. Il y a toujours un peu de psychologie.
Puis toi, dans ta vie personnelle, les échecs, parce que là, tu as pris une pause de 25 à 37, tu me disais?
Ouais.
T'étais-tu juste écœuré de jouer? C'est quoi, t'avais fait le tour? Ça te tentait plus?
J'étais joueur de poker professionnel de 25 à 37. J'ai découvert le poker, puis j'avais retrouvé une façon de faire des sous avec un jeu. Fait que j'ai eu une période que je joue au poker. Pas la meilleure période de ma vie, pour être honnête. Là. J'ai eu une période un peu difficile, où j'avais des mauvaises habitudes.
Ouais, ça doit être difficile, honnêtement, là, psychologiquement, ce monde-là, puis la part du game, puis le...
J'avais quelques dépendances, mais je gagnais ma vie avec ça, mais j'avais des mauvaises habitudes en même temps.
Ouais.
Puis ça a été une période un peu difficile, puis là, après ça, ça m'a motivé à aller retourner à l'université. Je suis retourné à l'université en psychologie à 37 ans. Puis là, j'ai fait un bac en psychologie, j'ai fait un certificat en intervention. Ensuite, j'ai fait deux ans à la maîtrise. Puis là, je fais des formations encore en psychologie. Donc, j'ai essayé de rentrer deux fois au doctorat, mais je n'ai pas réussi.
OK.
J'ai pas réussi à trouver le prof. J'ai un peu abandonné ça, mais c'est pas grave.
Le prof qui a le goût de backer cette recherche-là. là. Puis
ouais, ouais, j'ai comme, je me suis découragé. Là, c'est vraiment beaucoup d'études. Mm-hmm. Puis, ouais. Mais de toute façon, là, j'ai mon environnement pour faire de l'intervention avec une équipe. Dans le fond, ma conjointe est doctorante en psychologie, bientôt psychologue. Puis elle a sa propre clinique de psychologie avec une équipe de... Il y a 12 autres professionnels dans l'équipe, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs. C'est une clinique à Sainte-Adèle, ça s'appelle la clinique de psychologie des Laurentides.
Cool.
Puis, moi, je donne, mon rôle, c'est d'être intervenant puis travailler sous des plans d'intervention. Donc, par exemple, ma conjointe va évaluer les enfants, voir s'ils ont, par exemple, une douance, un TDAH. Puis là, on va voir, mettons, OK, toi, tu vas travailler sur l'anxiété de l'enfant avec... Fait que là, je présente qu'est-ce que je vais faire, puis je travaille avec des équipes. Des fois, le psychoéducateur va faire plus de coaching familial avec les parents, puis tout ça. Fait que je trouve que ça m'enlève un peu de pression, là, d'être dans ce rôle-là. Puis je peux m'occuper de mes échecs aussi. J'ai deux cordes à mon arc.
C'est très cool. Puis dans ta vie, comme je disais, dans ta vie personnelle, les échecs t'ont apporté... Est-ce qu'il y a des leçons importantes à tirer des échecs, des trucs que t'es comme... Si les gens savaient ce que ça peut, l'impact que ça peut avoir positif sur le développement de quelqu'un, est-ce que t'as-tu ciblé des trucs comme ça? Ou toi-même vécu des trucs que tu te dis, moi, si c'était pas des échecs, honnêtement, je verrais pas le monde de cette façon-là, j'aurais pas tendance à.
Ben, pour moi, c'est beaucoup les échecs, là, parce que, ben, tu sais, j'étais pas le. Moi, je suis autiste, puis j'ai le TDAH. Là. Fait que
je savais pas que tu étais autiste.
Ouais, j'ai mon diagnostic. Mais quand j'étais jeune, à l'école, j'avais pas trop d'amis, mettons. Puis j'avais pas trop de skills sociaux. Là, je les ai développés, là, mais j'avais pas beaucoup de skills sociaux. Fait que quand j'ai découvert les échecs, ça m'a j'ai découvert une communauté. Fait que j'ai eu des amis grâce à ça.
Nice.
Puis j'ai développé une passion pour ça. C'est un jeu qui peut développer beaucoup de bonnes choses chez quelqu'un, mais qui peut aussi développer, comment je dirais ça, c'est proche de la folie, des fois, les échecs aussi. Tu sais, c'est, si tu restes pris dans les cases, tu sais, c'est un monde dans 64 cases. Tu sais, t'es dans, tu sais, il y a beaucoup de. Ben, comme Bobby Fischer, là, il était. Ouais. Fait que, tu sais, c'est associé à ça en même temps, mais ça a beaucoup de... Tu peux développer, comme je disais tantôt, là, la créativité, la logique, la mémoire. Ça, c'est le king des jeux, en fait. T'sais, on peut jouer au Sudoku aussi, là, mais c'est le king des jeux. Là,
c'est très complet.
Ouais, c'est très complet. Il y a beaucoup un côté artistique, il y a un côté mathématique dans le jeu. Il y a plusieurs aspects dans ce jeu-là.
C'est très nice. Puis, pour vrai, merci beaucoup de m'avoir jasé de ça. Si les gens veulent prendre des cours avec toi, comment ça se passe? Comment ils te rejoignent? T'as-tu une page?
Ouais, je sais pas si tu veux que je te l'envoie puis tu la rajoutes après.
On peut faire ça. Comme... Oh, oui, sinon, tu peux juste les diriger, me dire.
Ouais, OK. Ouais, ben, mon username, c'est Slim Nico.
OK.
Puis c'est sur chess.com. Puis très tu cool. T'en vas dans les coachs ou tu peux juste marquer sur Google Slim Nico Chess Coach.
Okay.
Puis vous allez me trouver comme ça. Génial. Sinon, il y a sur Facebook, mon nom c'est Nicolas Soud. Vous pouvez m'envoyer un message en privé.
Très nice. Ben, tu m'enverras le lien, je vais le mettre en dessous de la vidéo justement pour que les gens aient accès à ça. Là.
OK, pas de problème.
Mais hey, merci énormément d'avoir fait ça. T'as bien fait de m'écrire. C'était super intéressant.
Merci beaucoup, PV. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler des échecs.
Écoute, c'était écœurant. Moi, je ne connaissais rien là-dedans. Fait que j'ai juste appris. Je suis bien heureux. Je suis sûr que t'es un excellent coach. On a la preuve. Est-ce que y a-t-il des choses qu'on n'a pas dit par rapport aux échecs que tu aimerais ça parler, que tu aimerais ça aborder ou. Y a-t-il un aspect qu'on n'a pas mentionné ou quelque chose que. Ou peut-être un. Je sais pas, ça peut être un documentaire que tu aimerais que les gens puissent aller regarder juste pour. Donc, il semble que la communication a coupé avec Nicolas. J'y ai écrit sur Messenger et il m'explique que là, ils vendent vraiment beaucoup chez eux. Fait que son Internet a complètement coupé, complètement chié. Mais on avait terminé de tourner. Fait que ça va, là, je posais une petite question en grévé à la fin, à savoir s'il y avait un ouvrage, un documentaire ou quelque chose qu'il voulait nous recommander. C'est pas grave. Il y a plein d'affaires. Moi, je vous dis, allez écouter Bobby Fischer. C'est le fun, ça. Sinon, il y a plein de documentaires sur les échecs qui sont bien intéressants. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. J'avais aucune idée qu'il y avait des coachs d'échecs. C'est pas un monde du tout que je connaissais. Fait que merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, si vous avez des suggestions d'invités de Curieux Rivard, comme ce que Nicolas a fait, il m'a juste écrit, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Ben, n'hésitez pas à m'écrire, j'adore ça vous lire. C'est tout le temps le fun de vous jaser en privé. Fait que ben, merci d'avoir été à l'écoute, puis passez une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!